L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Raphaël Buy, prêtre du diocèse de Rodez.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha, et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Des phénomènes lumineux inexplicables, l'apparition de personnages bibliques décédés depuis des siècles, une voix venue du ciel. Avec tout ça se pose la question de la crédibilité du récit de la transfiguration. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme cela? Peut-il s'agir d'une hallucination collective de la part de trois disciples exaltés? Peut-on y voir une invention littéraire de l'évangéliste pour dire la divinité de Jésus dans le langage symbolique de l'Ancien Testament, de ces théophanies cosmiques? Un détail nous met sur la piste d'une autre compréhension de ce passage. À ce moment de son récit sur la vie de Jésus, en racontant la transfiguration, alors que Jésus demande à ses disciples de n'en parler à personne avant qu'il soit ressuscité d'entre les morts, l'évangéliste Matthieu serait lui-même en flagrant délit de désobéissance à Jésus s'il ne nous supposait déjà dans la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, nous et les lecteurs ou auditeurs de son évangile, qui, à l'instar de Pierre, Jacques et Jean, comprennent leur vie avec Jésus avant sa Pâque à la lumière de leur foi en sa résurrection. D'une foi dont la Genèse suppose réciproquement l'existence d'événements surnaturels du type de ceux de la Transfiguration. La question n'est donc pas celle de la crédibilité d'un récit de la vie de Jésus d'avant Pâques, mais de ce qui, dans cette vie, a rendu possible aux disciples d'interpréter après Pâques des faits historiques comme le tombeau vide, les apparitions, la transformation des disciples apeurés en missionnaires hardis, comme signe de la résurrection du Christ, de sa filiation divine, de l'accomplissement en lui des Écritures. Sans la transfiguration, ces faits historiques pourraient être interprétés tout autrement, comme d'ailleurs on ne s'est pas privé de le faire. En quoi tout cela nous concerne-t-il? Nous pensons à tort que notre vie ordinaire est dépourvue d'événements surnaturels, de contacts directs avec Dieu, et le fait même de douter de leur crédibilité empêche justement de les percevoir. Au contraire, la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité donne de repérer a posteriori les conditions d'avènement de cette foi comme autant de rencontres personnelles avec le Christ vivant, et d'en rendre grâce. Relire notre vie passée, ses joies et ses peines, ses heures de gloire et de ténèbres, et même son péché, en croyant que, dans toutes ses dimensions, le Christ crucifié, descendu aux enfers, ressuscité et élevé à la droite du Père, s'y unit et peut en faire une offrande dans laquelle Dieu trouve sa joie, tout cela nous donne de la lire comme une histoire sainte, la matière d'un sacrement, l'objet d'une reconnaissance à l'égard du Christ capable d'en faire chose divine. Amen.